7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Quel plaisir de vous retrouver en direct sur RFI pour démarrer la saison 6 de 7 milliards avec nos 100 000 amis sur la page Facebook. Merci de votre fidélité, les voisins et les voisines. Alors aujourd'hui, trois femmes puissantes, portraits croisés. Angela Merkel, Christine Lagarde, patronne du FMI, et Hillary Clinton. Trois femmes puissantes, politiques, mais surtout trois femmes qui ont attendu avant de se hisser au sommet dans les hautes sphères. Certes, Hillary Clinton n'est que candidate à la primaire américaine, mais c'est justement d'ailleurs une journaliste américaine qui a osé le parallèle entre ces trois femmes d'âge mûr, grand-mère entre guillemets, ou qui pourraient l'être quand leurs homologues masculins avancent souvent plus vite. Elles apprennent une certaine patience et surtout la revanche. Et dans l'ombre, il y a d'autres femmes, la soixantaine flamboyante, qui, au lieu de tricoter pour leurs petits-enfants, mettent le turbo. Alors pour en parler, dans le studio de RFI, trois hommes très légitimes. François Clémenceau, rédacteur en chef du service international pour le journal du dimanche. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes un ancien correspondant aux États-Unis. Votre dernier livre, Hillary Clinton, de A à Z, aux éditions du Rocher. Cyril Lachèvre, journaliste à l'Opinion. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes le co-auteur avec Marie Vizeau de Christine Lagarde, enquête sur la femme la plus puissante du monde, aux éditions Michel Lafon. On rappelle bien sûr qu'elle fut aussi la première femme ministre des Finances en France, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Frédéric Lemaître, en liaison avec nous à Berlin. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant du journal Le Monde et on peut aussi vous lire d'ailleurs à volonté sur votre blog Merkel Acte 3, puisque depuis 2013, c'est le troisième gouvernement. Merkel, l'Allemagne donc, est gouvernée par ce gouvernement de coalition formé par les chrétiens démocrates, la CSU bavaroise et le Parti social-démocrate. Alors, quant à vous, les voisins, les voisines qui nous écoutez en direct, que vous inspirent ces trois destins? Et puis, vous pouvez élargir, bien sûr, vos réactions, vos questions à nos invités au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr, tous vos messages sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. Sur Facebook et sur Twitter d'ailleurs, une certaine fascination chez nos internautes. Sosten à Kinshasa nous dit ces trois femmes réalisent un travail complet. Bravo à elles. Là où l'homme a essayé, elles excellent. Encore Oumar à Dakar, ces femmes doivent être des modèles dont les femmes africaines doivent s'inspirer. Un autre internaute également au Sénégal dans le sud, cette fois-ci à Ziguinchor, nous dit que ces femmes l'inspirent lui-même beaucoup. Il y a aussi Pendambo au Sénégal, 60 ans, historienne et militante sénégalaise, ministre de la Culture en 2000. Puis un bémol aussi pour un autre internaute, Ousmane, qui nous dit « Pour moi, Madame Lagarde n'est pas au même niveau que Merkel ou Clinton. Elles sont plus charismatiques et populaires qu'elles. » En tout cas, elles sont plus médiatiques et ça peut se comprendre. N'hésitez pas à nous appeler en direct pour poser toutes vos questions sur ces femmes à nos invités au 33 1 84 22 33 1 84 22 71 71. Ça y est, j'ai donné le numéro de téléphone en entier.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
François Clémenceau, Cyril Lachèvre, Frédéric Lemaître, trois femmes avec des personnalités évidemment très différentes et pourtant une ambition, une gagne commune qui ne semble pas altérée d'ailleurs par l'âge, au contraire. Pour les hommes que vous êtes, puisque vous êtes trois hommes, s'interroger sur leur parcours en tant que femme, est-ce que il y a un risque pour vous de tomber dans les clichés ou pas? Qui veut répondre d'abord, peut-être François Clémenceau?
Non, mais c'est bon. Moi, je me suis intéressé à Hillary Clinton parce que c'est vrai que, ayant couvert l'actualité politique américaine, je pense que cette femme est totalement incontournable et que donc, ne serait-ce que d'un point de vue purement journalistique, il faut faire ce détour par la personnalité d'Hillary pour comprendre les États-Unis d'aujourd'hui. Et en même temps, dès qu'on commence à travailler sur son parcours, sur sa vie, on s'aperçoit qu'effectivement, en tant qu'homme, on a une approche forcément beaucoup plus sensible et on se dit tiens, on essaye de se mettre dans la peau de Bill Clinton, on essaye de se mettre dans la peau d'Al Gore, on essaye de se mettre dans la peau aujourd'hui de Joe Biden, on essaye de comprendre comment les hommes ont vu cette femme progresser dans la vie publique américaine. Et c'est ça qui est intéressant.
Ouais, évidemment, vous ne pouvez pas faire abstraction de son sexe. Pour vous, Cyril Lachève, pour Christine Lagarde.
Moi, c'est encore plus paradoxal. J'allais dire, je me suis intéressé à cette femme. Je suis journaliste économique, donc je me suis intéressé à elle à partir du moment où elle est devenue ministre de l'économie. Et ce qui me fascinait, c'est que c'était la première femme ministre de l'économie, qu'elle ne faisait pas de politique, elle n'avait jamais fait de politique. Donc, c'était quand même déjà
elle
très fascinant.
Elle avait été appelée à Chicago en 2005.
Comme avocate, elle était avocate à Chicago. Et elle n'avait jamais non plus fait d'économie. Bon, ça, vous me direz, il n'y a pas beaucoup de ministres de l'économie qui en ont fait. Mais enfin, bon, ça faisait quand même deux handicaps. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait l'un de vos auditeurs sur le fait qu'elle n'est pas au même niveau que les autres. Mais moi, c'est ce qui me fascine encore plus. Parce qu'elle n'a jamais voulu faire de carrière politique dans une certaine mesure. Elle y est arrivée dedans un peu par hasard. Et quelque part, je pense qu'elle y a presque mieux réussi.
Oui.
À la fois que les hommes.
Par hasard, mais pas sans le vouloir, quand même.
Du moins. Elle a été plutôt au début surprise et une fois qu'elle est rentrée dans le bain, elle y a pris goût.
Ouais. Et pour vous, Frédéric Lemaître, concernant Angela Merkel?
Ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait tout pour échouer ou pour ne pas, en tout cas, arriver au pouvoir en Allemagne, puisqu'elle était femme, elle venait d'Europe de l'Est, elle était d'Allemagne de l'Est, elle était protestante. Donc, trois défauts vu les profils traditionnels des hommes politiques allemands. Donc ça, c'était intéressant de regarder cet aspect-là. L'autre intérêt aussi en tant que Français, c'est qu'on parle du couple franco-allemand et du couple que forment les deux dirigeants. Et évidemment, quand il y a une femme d'un côté et un homme de l'autre, ça renforce un peu ce côté couple et on a aussi abordé les questions personnelles, cet aspect-là pour les relations qu'ont eu Angela Merkel et Nicolas Sarkozy à Deauville, par exemple, ou aujourd'hui François Hollande et Angela Merkel.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que alors, votre blog est essentiellement un blog politique. Merkel acte 3, c'est parce qu'elle est la chancelière, qu'elle est la chef du gouvernement, mais c'est celle que l'on connaît le moins sur le plan personnel, non, par rapport à Hillary Clinton et voire même par rapport à Christine Lagarde, peut-être, je ne sais pas. Non, selon vous, Frédéric Lemaître?
Je pense, je ne sais pas si on la connaît moins, ce qui est sûr, c'est qu'elle protège sa vie privée. C'est une fille de pasteur d'Allemagne de l'Est qui était élevée de manière austère. On ne se mettait pas en avant du tout dans sa famille. Elle n'a pas d'enfant elle-même. Elle vit avec un homme qu'on voit très peu, Joachim Sauer, qui prend parfois EasyJet plutôt que les avions du gouvernement allemand pour payer moins cher sa place quand il part en vacances avec son épouse et personne ne le reconnaît dans l'avion. Donc voilà, ça fait aussi partie de la personnalité, mais en tant que journaliste, je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a également une certaine mise en scène dans cette discrétion.
Ah oui, pourquoi ?
Eh bien, quand, par exemple, tous les ans, la chancelière va à Pâques dans la baie de Naples en vacances avec son mari et les enfants et petits-enfants de celui-ci. Quand elle y va en avril 2013, quelques mois avant les élections, il ne faut pas qu'elle s'étonne que des paparazzi la prennent en photo sur la plage en famille. Donc, elle a aussi besoin de montrer, alors même si elle s'offusque officiellement des photos qui sont tirées de ce séjour privé, surtout qu'elle a théorisé ça en disant, et ça nous concerne nous journalistes, que le nombre de journalistes diminue avec l'altitude. Donc c'est pour ça que l'été elle part en vacances dans le Tyrol. Et donc quand au printemps elle part au niveau de la mer dans un pays d'où est issu le terme paparazzi, il ne faut pas non plus s'étonner.
Ouais. Ouais. En quelques mots, son parcours politique, comment elle s'est hissée jusque-là? Parce que finalement, ça aussi c'est moins connu, cette partie-là de son histoire.
Oui, alors évidemment, il faut remonter à la chute du mur. Hein. Jusque-là, elle était étudiante en chimie, elle était plus en physique, pardon. Elle était contestataire, sans être trop contestataire dans le régime. Elle est allée en Union soviétique, elle parle très bien russe. Mais elle était d'une famille, donc son père était pasteur, donc un peu marginal au sein du pays. Sa mère, prof d'anglais, a été interdite d'enseigner parce que femme de pasteur. Donc voilà, sa famille était quand même observée de près par les autorités. Mais elle n'a pas fait partie du tout des opposants de la première heure, loin de là. Et quand est arrivée la chute du mur, elle s'est quand même associée à l'opposition. Et très vite, elle est devenue porte-parole d'un des derniers dirigeants d'Allemagne de l'Est. Et quand le mur est tombé et que l'Allemagne a été réunifiée, Helmut Kohl a cherché notamment une jeune femme de l'Est pour entrer dans son gouvernement. Et c'était cette jeune porte-parole qui, sans briller, était très sérieuse, dit-on maintenant, et avait déjà impressionné ses interlocuteurs. Et donc, elle est devenue d'abord ministre chargée de la condition des femmes. Après, elle est devenue ministre de l'Environnement, une expérience qui l'a beaucoup marquée dans les années 90. Elle a été ensuite secrétaire générale de la CDU, et puis elle a pris la présidence et devenue chancelière.
Alors, d'ailleurs, on le dit souvent, hein, Angela Merkel, c'est l'anti-people, rien à voir avec Hillary Clinton. François Clémenceau.
Ben oui, en même temps, Hillary Clinton a beaucoup fait, précisément pour essayer de défendre le peu de vie privée qui lui restait compte tenu du régime de la transparence aux États-Unis. Et elle a énormément souffert des attaques de la presse, de la façon dont ils allaient fouiller dans sa vie privée, dans ses relations avec son mari, évidemment, mais aussi dans les troubles qu'elle a connus. Donc, people, j'allais dire, presque à ses dépens. Et lorsque elle essaye de renverser la vapeur en essayant, pour le coup, de réinstrumentaliser la presse à son avantage, c'est-à-dire pour mettre en valeur son travail de candidate ou son travail au Sénat.
Grosso modo, après l'affaire Monica Lewinsky, finalement.
Hein, essentiellement. Hein, essentiellement. Et en même temps...
Où beaucoup de femmes se sont reconnues dans son courage et sa capacité à rester droit dans ses bottes, en fait.
Oui, mais en même temps, dans toutes les campagnes qu'a menées son mari avant, et Dieu sait s'il en a mené, pour être à la fois procureur de l'Arkansas, puis ensuite gouverneur, et enfin président des États-Unis, c'est elle qui était vraiment son directeur de campagne, et la façon dont elle voulait maîtriser la presse, la tenir à l'écart, la tenir sous contrôle, c'était assez spectaculaire. Et aujourd'hui encore, vous vous apercevez qu'Hillary Clinton est celle qui veut maîtriser et cadenasser le message, et c'est-à-dire en créant une distance entre elle et la presse, ce qui risque une fois de plus de lui nuire.
Hillary Clinton, 67 ans, presque 68, de nouveau dans la course pour la présidentielle, après l'échec de 2008. Il y a cette image justement de femme qui a connu l'échec, qui attend son heure, puisqu'on parle de ces femmes sexagénaires et puissantes.
Disons que lorsqu'elle se présente en 2008, elle pense tout de même que ça lui est acquis, qu'en fait, c'est l'héritière. Et donc que la Maison Blanche, où elle a passé 8 ans, naturellement, ça doit lui revenir, puisque dans le camp démocrate, elle est quand même l'épouse de l'ex-président qui a modelé le centrisme américain, le centrisme du Parti démocrate, après des années de gauchisme au sein du Parti démocrate américain, qui s'était vu renier la présidence des États-Unis. Et donc, oui, vous avez raison de dire qu'elle est opiniâtre, qu'elle veut sa victoire. Vraiment. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, lorsqu'elle se présente pour la première fois à une élection, à l'élection pour le Sénat des États-Unis à New York, elle va se battre et puis elle est élue assez facilement parce qu'en fait, elle n'a pas d'adversaire en face d'elle. Mais tout de même, on a senti à ce moment-là qu'elle voulait se battre et lorsqu'elle s'est fait réélire 6 ans plus tard, elle a dû se battre également. Donc oui, c'est une battante, oui, elle veut accumuler les victoires et c'est amusant de voir que plus elle grandit avec l'âge, maintenant 68 ans, vous vous rendez compte, et plus elle a cette énergie incroyable qui lui fait déplacer des montagnes. Regardez déjà son début de campagne, c'est assez incroyable.
Ouais. Alors en tout cas, là on parle de vraiment trois femmes qui sont omniprésentes dans les médias, Angela Merkel, Christine Lagarde, Hillary Clinton, on va la voir de plus en plus là, parce que la campagne pour la primaire est franchement très enclenchée. Angela Merkel, Christine Lagarde, on a vu qu'elle cet été au moment de la crise grecque, et pourtant Christine Lagarde, rien ne l'a prédestinée à être à la tête du FMI, elle y est arrivée par accident, il faut peut-être le rappeler, Cyril Lachèvre.
Ne serait-ce que parce que rien ne prédestinait Dominique Strauss-Kahn d'en partir aussi vite,
oui.
Dans une certaine mesure. Alors Christine Lagarde, c'est un parcours étonnant. C'est une avocate française spécialiste de droit social à l'origine. Donc d'ailleurs, au passage, quand elle devient ministre et qu'elle parle du droit du travail qu'il faut réformer en France, tout le monde dit c'est une gaffe. En fait, c'est tout sauf une gaffe parce qu'elle connaît parfaitement le sujet. Bon. Et cette femme fait une très brillante carrière dans un cabinet d'affaires américain, Baker McKenzie, dont elle prend la présidence à Chicago. Et elle est repérée par Jean-Pierre Raffarin, au premier ministre de Chirac en 2003, dans le cadre d'un conseil d'attractivité. Et un jour, en 2005, lorsque Dominique de Villepin devient Premier ministre, il cherche des femmes un peu étonnantes qui détonnent et on lui dit il y a cette femme, Christine Lagarde, et en même pas 24 heures, elle devient ministre du commerce extérieur. Tellement précipité son départ de Chicago qu'elle en oublie même ses lunettes et qu'autour du Conseil des ministres, comme elle n'est absolument pas politique, elle ne connaît pas la moitié des gens qui sont autour et qu'elle ne les voit pas, c'est à peine si elle distingue Chirac. Et voilà comment elle débarque.
C'est surnommée au départ, d'ailleurs, Christine Lagarde, parce qu'elle commet pas mal de gaffes politiques.
Oui, tout à fait. Venant à la fois des États-Unis et pas du monde politique, et donc c'est comme ça que sa carrière s'est construite, a démarré, mais vraiment par le pur hasard.
Concernant cette énergie de la soixantaine que vous soulignez à juste titre concernant Hillary Clinton, est-ce que on retrouve ça chez ces femmes, Angela Merkel et Christine Lagarde? Christine Lagarde, alors, et la Benjamine, elle a que 59 ans.
Oui, mais Christine Lagarde est une sportive de haut niveau.
Ancienne vice-championne de natation synchronisée,
et elle court tous les jours, elle nage dès qu'elle peut. Elle entre entretient vraiment une forme physique, et c'est probablement sa caractéristique principale, ce qui lui a permis de tenir dans des négociations absolument terribles, notamment au moment de la crise des subprimes, et ce qui aujourd'hui fait que de toute manière, en plus de sa prestance, elle dégage une énergie qui vient vraiment de l'intérieur.
Alors justement, je le disais, Frédéric Lemaître, vous qui êtes à Berlin et qui observez la vie politique allemande et donc qui suivez de très près le parcours d'Angela Merkel, on a un peu le sentiment que Angela Merkel, surtout en ce moment, cherche à gommer son image de femme froide, intraitable, notamment au moment de la crise grecque, qu'elle cherche à retrouver ou en tout cas afficher plus d'empathie. Est-ce que vous diriez que c'est quelque chose aussi qui la caractérise? Je pense à certains billets sur votre blog ces derniers temps où elle cherche à apparaître nettement plus humaine. C'est un problème pour les femmes de ce niveau-là, de cet âge-là?
Oui, je pense. En tout cas, c'est quelqu'un de très réservé. Et à la fois, les Allemands apprécient, mais aimeraient bien, sans doute aussi, quelqu'un de parfois plus chaleureux. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est quelqu'un de très simple aussi. Je pense qu'en tant que fille de pasteur, elle a été élevée avec des enfants de milieu modeste, au milieu d'enfants modestes. Et ça, ça se voit dès qu'elle est en présence de personnes assez simples qui n'ont pas l'habitude de s'adresser à des gens de pouvoir. Enfin, elle passe très très bien, sans être, sans afficher une proximité qui pourrait être démagogique. Elle arrive à se montrer proche des gens. Et on l'a vu. Je pense que vous faites référence à cette scène avec cette petite Palestinienne il y a quelques semaines. Où voilà, c'était une scène typiquement merkelienne, puisque donc faut rappeler le contexte.
Qui a tourné en boucle sur les réseaux sociaux, un succès absolument inouï pour cette vidéo.
Oui. Et je pense que c'était justifié parce que ça montrait bien à la fois Merkel et ça montrait l'Allemagne. Donc une petite fille lui explique dans un allemand parfait qu'elle est une petite palestinienne, qu'elle est là depuis plus de 4 ans, qu'elle voudrait bien rester en Allemagne avec ses parents, mais que malheureusement elle va devoir partir. Angela Merkel lui dit tu vas devoir partir. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on ait mis 4 ans à traiter le dossier de ta famille, mais vous êtes très nombreux, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et bon, faire de la politique, c'est pas faire plaisir forcément à l'interlocuteur qu'on a en face de soi, je suis désolé, etc. L'émission continue et au bout de quelques dizaines de secondes, on voit la petite fille pleurer. Merkel s'en rend compte et est allée là, spontanément lui caresser les cheveux en disant, mais écoute, c'est très bien ce que tu m'as dit, mais comprends-moi, etc., etc. Et donc on voyait à la fois la fermeté qui se dégageait de Merkel, voilà, c'est une femme de principe, et son côté humain, quoi.
Il y a une universitaire américaine, Susan Fiske, qui est professeure de psychologie, qui dit les femmes de pouvoir sont perçues soit comme sympathiques, soit comme compétentes, mais jamais les deux à la fois. Contrairement aux hommes, pour qui finalement ces deux qualités sont pas du tout incompatibles. Dans la réalité, on voit pas pourquoi ça serait incompatible. D'ailleurs, vous partagez ce point de vue ou pas? Les femmes sont dans cette situation jugée inextricable par cette universitaire ou pas, François Clémenceau?
Les Américains très clairement l'aperçoivent comme ça. Ouais. C'est-à-dire que oui, il y a
pour Hillary
Clinton.
Compétente, mais pas très sympa.
Pas très sympa. Mais c'est drôle parce que dans la campagne de 2008, il y a un moment où on demande à Obama ce qu'il pense finalement d'Hillary. Ils sont tous les deux là, côte à côte. Et puis bon, ils échangent pas forcément des amabilités, puisqu'ils sont quand même concurrents. Et puis à un moment, Obama dit « Oh, yes, I have to admit that Hillary is just likable enough. » Likable enough, c'est vraiment une phrase terrible. Ça veut dire « Elle est tout juste sympathique, quoi. » Et c'est terrible parce qu'il insiste là-dessus, parce qu'il sait pertinemment que la majorité des Américains ne la trouvent pas sympa, Hillary. C'est vrai qu'elle a très peu d'empathie, elle n'est pas proche des gens, elle est un peu fake lorsqu'elle veut faire des démonstrations d'affect. Donc, voilà. Et en même temps, personne ne remet en cause la compétence d'Hillary Clinton, parce qu'effectivement, au sommet de l'État, elle a su prouver qu'elle savait.
C'est moins valable pour Christine Lagarde ou pas?
C'est un peu différent. C'est une des personnalités préférées des Français de notre monde politique, hein, en tout cas de droite, ça c'est certain. Je pense que ça tient au fait que, pour les Français, elle représente bien le pays, notamment parce qu'elle a un anglais impeccable, ce qui est assez rare, et qu'effectivement elle a une prestance. Maintenant, sa compétence étant plutôt d'ordre technique, il faut être assez honnête, à la fois quand on est ministre de l'économie et au FMI, je suis pas forcé que...
Oui, c'est pas une harangueuse de foule.
Non, voilà, donc sa compétence est peut-être moins perçue, et son côté sympathique est gêné par l'image qu'elle projette, effectivement, de cette grande bourgeoise.
Bon, nous allons y revenir, hein. Vous restez bien sûr tous les trois avec nous. Au-delà de ces trois femmes puissantes, il y en a d'autres, hein, moins connues, mais également sexagénaires. Je pense à Janet Yellen, 64 ans, présidente présidente de la Réserve fédérale américaine, qui tient les clés du coffre-fort américain, Dilma Rousseff, 67 ans, présidente du Brésil. Que révèlent finalement ces ascensions sur la place des femmes dans ces pays? Et puis en France aussi, quelles femmes d'âge mûr au sommet? L'âge et le sexe, deux critères importants pour la politique. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 60.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI, en direct, avec nos invités. Nous scrutons aujourd'hui la revanche des femmes puissantes de 60 ans et plus dans les hautes sphères du pouvoir, avec les destins croisés d'Angela Merkel, 60 ans, Christine Lagarde, 59 ans, bon, enfin on va pas couper les cheveux en quatre, Hillary Clinton, 67 ans, candidate à la primaire pour la présidentielle américaine, bientôt 68 ans. Vous nous le disiez, François Clémenceau, puisque vous êtes l'auteur de Hillary Clinton de A à Z et rédacteur en chef du journal du dimanche. Cyril Lachèvre, vous êtes journaliste à l'Opinion et vous avez publié avec Marie Vizeau, Christine Lagarde, enquête sur la femme la plus puissante du monde. Hein. Rappelons qu'elle est patronne du FMI, mais je crois que tous les auditeurs le savent. Et puis nous sommes également en liaison avec Berlin et vous, Frédéric Lemaître, vous êtes correspondant du journal Le Monde et vous publiez également régulièrement sur votre blog Merkel Acte 3. Et quant à vous, bien sûr, les voisins et les voisines, vous pouvez réagir sur ces trois destin et au-delà, sur d'autres femmes sexagénaires qui finalement sont à un moment de leur vie un peu feu d'artifice en termes de pouvoir. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons un auditeur, un voisin qui nous appelle de Cotonou au Bénin. Bonjour Charles.
Oui, bonjour Emmanuel.
Soyez le bienvenu. Dites-nous ce que vous inspire ces parcours assez hors du commun, il faut bien le dire.
Exact. En fait, pour moi, à mon humble avis, le point commun entre ces trois femmes, ces trois basses femmes, se résume au courage et la détermination. Parce qu'elles ont suffisamment pris le temps pour observer quand même la scène politique, raison pour laquelle elles sont supérieures aux hommes.
Vous voulez dire que finalement, elles ont appris des hommes dans l'attente,
hein? Exactement.
Mais merci beaucoup pour cette analyse. Bien sûr, vous pouvez réagir, François Clémenceau, pour Hillary qui a été dans les coulisses du pouvoir en étant First Lady.
Mais c'est à la fois pour Hillary Clinton, effectivement, le parcours d'une femme qui a su se forger une carapace, une armure contre la presse américaine et la plus conservatrice des journaux américains qui ont vraiment été jusque dans des extrémités d'atteinte à la vie privée, de harcèlement qu'on ne mesure pas encore aujourd'hui, 30 ans après. Et en même temps, c'est une femme qui a le courage de ses opinions, mais parfois avec énormément, j'allais dire, une ténacité qui frise l'entêtement. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'elle a voulu imposer sa réforme de la santé, ce qui était plutôt une bonne idée, la façon dont elle s'y est prise était tellement maladroite et que ça a été un échec. Donc, c'est une femme de courage, c'est une femme d'opinion, et en même temps, elle a appris avec le temps que se forger une armure, c'était pas forcément la meilleure des solutions, cultiver l'art du secret et du mensonge, c'était pas forcément non plus une bonne solution, et ensuite, vouloir imposer ses propres idées, ça ne se fait pas n'importe comment. Et ça, c'est important parce que c'est la façon dont finalement on voit que, au fur et à mesure, elle apprend de ses erreurs, et on verra qu'en 2016, elle a corrigé un certain nombre de ses erreurs.
Est-ce que Christine Lagarde a appris dans les avions présidentiels avec Nicolas Sarkozy, justement, pour tenir son rôle ensuite au FMI?
Christine Lagarde a une phrase, elle dit les femmes c'est comme les sachets de thé, c'est quand on les plonge dans l'eau qu'elles prennent toute leur force, donc c'est une manière de montrer que c'est quand on essaie de les enfoncer quelque part qu'elles s'en sortent. Je crois que plutôt que d'apprendre des défauts des hommes, elle a surtout, c'est une grande séductrice au sens négociateur du terme, et elle sait exactement comment jouer avec les défauts des hommes, notamment les égaux, sont assez fréquents dans le monde politique, et donc plus que d'apprendre de leurs erreurs, elle en a joué, et c'est grâce à ça qu'elle a vraiment souvent réussi à s'en sortir.
D'ailleurs, elle dit les femmes dans les hautes sphères du pouvoir ont moins d'égo que les hommes. Elle est là-dessus très critiquée par les féministes qui disent mais non, il n'y a pas de différence.
Alors que je peux vous dire que c'est une vraie féministe, que ce sera un soutien éternel à la cause des femmes. Donc elle dit ça parce que en fait, elle a vraiment compris que justement, c'était sur ce créneau-là que les femmes ont en politique un créneau à jouer, justement, enfin une carte à jouer. C'est-à-dire, c'est pas en essayant d'être plus forte que les hommes, mais en étant différente et en jouant effectivement de leur faiblesse.
Ouais, Frédéric Lemaître pour Angela Merkel.
Oui, moi je ne dirais pas qu'Angela Merkel a dû beaucoup attendre. Elle est rentrée en politique à 35 ans et elle était ministre à moins de 40 ans. Donc non, on peut pas dire qu'elle ait beaucoup attendu. En revanche, je suis d'accord avec mes deux confrères. Enfin, je pense qu'elle a, et enfin, on l'a sous-estimée parce qu'elle était femme, et ça, elle en a joué. Et voilà. Et elle a souffert pour arriver là, notamment parce qu'elle a fait l'objet quand même d'un mépris de ses collègues masculins pendant des années. Elle a quand même pleuré plusieurs fois quand elle était jeune ministre d'Helmut Kohl, voilà, auprès duquel elle a également beaucoup appris, mais elle a souffert.
C'est ça, on peut dire toutes les trois qu'elles ont clairement dû affronter des préjugés misogynes.
Oui, mais pour Hillary Clinton, ce qui est intéressant, c'est que justement, elle aurait pu gagner en 2008 si elle avait joué cette carte-là, la carte du genre. Je suis une femme et je suis aussi capable qu'un homme. Elle a refusé de le faire parce qu'elle a préféré miser sur « je suis l'héritière du Parti démocrate, je suis l'épouse de Bill Clinton qui a su réussir à un moment clé dans l'histoire des États-Unis », plutôt que de jouer clairement la carte de « vous avez une occasion historique d'avoir un premier noir à la Maison-Blanche, mais également une première femme dans l'histoire des États-Unis ». Comme si elle en avait un peu pas honte, mais qu'elle ne voulait pas jouer sur cette carte sensible auprès des Américains. Et c'est ce qu'elle fait maintenant, 8 ans après.
Ces femmes-là, elles se connaissent évidemment, elles se croisent dans les hautes sphères, elles se connaissent bien. Est-ce qu'il y a une forme de connivence, de solidarité? Christine Lagarde dit sur Merkel, je m'entends très bien avec elle, elle l'admire, c'est clair, mais n'allez pas croire qu'on parle chiffon ensemble, c'est pas du tout son genre.
Je peux vous dire, pour à l'époque notamment de la crise des subprimes, en 2007-2008, Christine Lagarde et Merkel étaient branchées en direct, alors que c'était pas le même niveau. Mais dès que Christine Lagarde était aux côtés de Nicolas Sarkozy, Angela Merkel était comme elle le disait elle-même, rassurée, elle allait spontanément voir Christine Lagarde. Elle avait beaucoup plus peur des tête-à-tête seule avec Nicolas Sarkozy que quand Christine Lagarde était là. Et c'est aussi
peut-être aussi du fait de l'aisance de Christine Lagarde, puisqu'elle est complètement bilingue.
Non, c'est tout simplement le côté juridique.
Maîtrise des dossiers.
Et elle avait confiance dans le fait qu'un accord, une fois qu'il était conclu avec une personne très proche du droit, très à cheval sur le droit, comme Christine Lagarde, c'est un accord qui resterait valable, ce qui était peut-être moins le cas avec un homme politique français classique.
Alors vous avez la parole, bien sûr, les voisins, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons Issa qui nous appelle de Bamako au Mali. Bonjour Issa.
Bonjour Emmanuel, bonjour aux invités de la radio du monde.
Issa, vous souhaitez vous élargir le sujet sur ces femmes puissantes, sexagénaires, notamment à propos des femmes sur le continent africain?
Tout à fait, Emmanuel, et merci de m'avoir donné l'opportunité afin de m'exprimer sur un sujet aussi important que ça. Donc, de mon humble avis aussi, sur le plan caractéristique, ces trois femmes sont hors pair, même s'il y a des sexistes qui voudront le contraire. En ce qui nous concerne, nous, en Afrique, nous souhaiterons en Afrique, et que si et seulement si les femmes africaines s'inspiraient de ces trois femmes-là, pas être comme elles, mais en essayant de les imiter, car les réalités sont différentes, c'est d'accord sur ça.
Issa, je suis désolée, la ligne téléphonique est assez mauvaise, mais je sais que vous souhaitiez surtout citer évidemment la plus connue d'entre elles sur le continent africain, Ellen Johnson Sirleaf, 76 ans, présidente du Liberia depuis 2006, si je me trompe pas.
Effectivement, il y a Ellen Johnson Sirleaf, il y a Kosa Dlamini-Zuma, et il y a ici au Mali aussi, il y a une femme très très battante, comme il y a les mêmes caractéristiques que ces trois femmes-là. Députée à l'Assemblée nationale, et elle s'appelle Madame Assouri Aïcha Belkomaïda. Il y a, comme je vous l'ai dit aussi, il y a aussi Kosa Dlamini-Zuma. Toutes ces femmes-là, je dirais de ces trois femmes-là,
Et on pourrait citer aussi, merci beaucoup de votre appel Issa, et pardonnez-nous pour la ligne téléphonique, on fait ce qu'on peut. On pourrait citer aussi Fatou Bensouda qui est procureur de la CPI, alors Benjamin, d'accord, certes, que 54 ans. Mais il y en a beaucoup d'autres dans l'ombre. On pourrait faire aussi un parallèle avec Janet Yellen, donc qui est une économiste et qui est donc à la tête de la réserve fédérale américaine, donc grosso modo qui a les clés du coffre, qui est une des rares économistes à avoir vu venir la crise de 2008, et qui était d'ailleurs que le deuxième choix d'Obama, qui lui aurait préféré un homme plus jeune, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est exact. Et en même temps, c'est assez amusant de voir que le Parti républicain, dont on dit aujourd'hui que c'est un parti très misogyne, ce qui est vrai, a en même temps, sous la présidence Bush, promu un certain nombre de femmes qui, pour le coup, se sont révélées d'excellentes serviteuses de l'État. Je pense en particulier à Condoleezza Rice, qui a été non seulement une très grande secrétaire d'État, mais aussi une excellente conseillère à la Maison-Blanche. Donc, il y a cette sorte d'ambiguïté aux États-Unis où démocrates comme républicains ont bien compris que les femmes méritaient d'avoir une bien plus grande place au sommet de l'appareil d'État, et en même temps, dès qu'on entre dans la bagarre politique, elles sont très vite éliminées, et vous vous rendez compte de plus en plus dans les élections locales et dans les élections nationales, c'est très 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 difficile pour les femmes de réussir à s'imposer lorsqu'elles partent avec des désavantages, notamment sur le plan financier pour les récoltes de fonds. D'où le fait que lorsqu'une femme politique réussit aux États-Unis, ça fait de sa victoire quelque chose d'assez exemplaire, et ça a été le cas notamment évidemment pour Hillary Clinton. Mais je voudrais juste rajouter un mot quand même sur les autres femmes d'État ou les autres femmes qui réussissent en politique à travers le monde. On ne cite jamais, mais jamais, et pourtant ça date de plus de 30 ans, Golda Meir, Indira Gandhi, Benazir Bhutto, la présidente du Bangladesh, la présidente du Sri Lanka, énormément de femmes qui, en Asie, et depuis plus de 30 ans, sont parvenues à se hisser. Alors, pour d'autres raisons, qui sont souvent des femmes...
Des raisons dynastiques.
Des raisons dynastiques, des filles d'eux, ou des épouses d'eux, ou des veuves d'eux, mais tout de même, qui ont réussi à marquer de leur empreinte une partie de la vie publique en Asie.
Alors, on disait, elles n'affichent pas trop, elles ne veulent pas afficher, en tout cas, une forme de connivence, même si, par exemple, on sait que Christine Lagarde s'entend bien avec Janet Yellen, qui, d'ailleurs, quand elle a été nommée à la tête de la réserve fédérale américaine, Christine Lagarde dit « Je me suis pincée ». C'est quand même incroyable, une femme à ce poste-là, elle-même première femme à la tête du FMI. Mais quels sont finalement, fondamentalement, profondément, pour ces trois femmes, Angela Merkel, Christine Lagarde et Hillary Clinton, leur position, leur conviction sur la place des femmes dans la politique, dans leurs sociétés respectives? Peut-être pour Christine Lagarde, puisqu'on l'évoquait.
Une vraie frustration, en tout cas, ça c'est certain. Elle, on le disait tout à l'heure, elle n'est pas très politique, hein, Christine Lagarde. Malheureusement, la seule fois de sa vie où elle s'est présentée à une élection, c'était à la mairie du 12e arrondissement à Paris, qui est quand même pas très difficile, et elle a perdu dans les grandes largeurs. Hein, donc, elle n'est pas très douée là-dessus. Elle s'est jamais vraiment très bien entendue avec ses congénères politiques femmes. Donc, elle n'associe pas forcément femmes et politique. Par contre, effectivement...
Mais elle dit, maintenant que j'ai si bien réussi, je me dois de faire quelque chose pour faire monter des femmes.
Ah oui, elle va régulièrement dans ses anciennes écoles, notamment lorsqu'elle était étudiante aux États-Unis pour donner, qui sont des écoles de uniquement réservées aux femmes, donc pour leur donner des cours, pour leur dire comment il faut faire pour réussir. C'est toujours les mêmes recettes. C'est vous êtes différente, soyez restez vous-même, n'essayez pas de réussir comme
les
hommes.
C'est du cliché ou c'est une conviction profonde?
Ah non, c'est une vraie conviction, puisque comme je vous le disais, elle en joue et elle en jouera éternellement.
Pour Angela Merkel.
Alors, je ne sais pas quelles sont ses convictions, mais on ne peut pas dire qu'elle ait fait du droit des femmes une de ses priorités. Les féministes allemandes lui reprochent même de sacrifier ce thème, alors qu'elle a une politique très centriste pour son parti conservateur dans plein de domaines. Là-dessus, elle n'a pas fait grand-chose.
Notamment sur cette histoire de l'Allemagne, qui est un pays qui vieillit, où là, finalement, elle se montre très ouverte quant à l'immigration, qui est une chance pour l'économie allemande, qui manque d'emplois qualifiée, mais c'est vrai qu'on n'a pas entendu de déclaration sur il faut que les femmes retrouvent le chemin du travail. On sait que le sous-emploi des femmes est en grande partie dû à la maternité en Allemagne.
Oui, tout à fait. Donc, on a des déclarations d'Angela Merkel sur ce thème, mais de fait, ce n'est pas un thème qu'elle met en avant.
Voilà. Alors, elle a annoncé quand même un quota de 30% des femmes dans les conseils d'administration des entreprises cotées en bourse. Bon, ça reste anecdotique.
Ça reste anecdotique. Plus exactement, c'est arrivé au terme comme d'un long processus et c'était dit très difficile à imposer au sein de son parti.
Mais c'est une forme d'alignement européen. D'autres pays s'y sont mis.
Absolument, tout à fait. Ce n'est pas sa priorité, c'est clair.
Et pour Hillary Clinton, alors
Hillary Clinton, c'est un vrai paradoxe parce que elle a épousé la cause des femmes, mais vraiment très tôt, dans les années 70, lorsqu'elle était à Yale, et l'époque voulait ça, et elle était clairement à gauche sur ces grandes questions de société, notamment sur la conquête du pouvoir dans l'entreprise et dans la vie publique par les femmes. Et en même temps, tout en défendant cette cause-là, elle se montre très conservatrice dès qu'on aborde des sujets qui concernent les femmes, mais aussi les mères de famille, mais aussi les femmes dans leur vie privée, dans le cercle familial, où là, elle...
Mais ça, c'est la conviction profonde ou c'est une stratégie politique,
hein? Non, c'est que ses origines sociales, le fait qu'elle vient d'une famille très conformiste de la middle class conservatrice américaine, le fait qu'elle soit pratiquante sur le plan religieux dans une église méthodiste qui est très progressiste sur la sphère publique, mais tout de même assez conservatrice dans la sphère privée, fait que ça a façonné la façon dont elle pense. Quand elle dit, par exemple, qu'elle ne souhaite pas que les jeunes femmes puissent avoir des relations sexuelles avant le mariage, ce qui est très étonnant pour nous ici en Europe, aux États-Unis, ça ne choque pas, et elle-même n'hésite pas à le dire. Et c'est pas tellement parce qu'elle sait que ça va booster sa popularité dans les sondages, c'est parce qu'elle y croit. Lorsqu'elle dit, par exemple, qu'il faut que les enfants américains ne mettent pas la télé après 20 heures, lorsqu'elle pense que... sur tout un tas de thèmes comme ça, elle a des opinions assez réac, quoi, en fait. Et dont on comprend pas que ça puisse se coexister, se juxtaposer avec ces grandes déclarations sur il faut percer le plafond de verre, il faut que les femmes puissent grandir partout et s'épanouir sans tenir compte de la misogynie ou du machisme des hommes.
7 milliards de voisins sur RFI, on discute de ces destins croisés de femmes puissantes et sexagénaires.
7 milliards de voisins, ça nous rapproche.
On est ensemble, c'est votre vie au quotidien.
Sept milliards de voisins et la planète se barre.
Nous sommes en ligne avec Moussitou au Bénin. Bonjour Moussitou.
Bonjour.
Vous souhaitez jeter un éclairage sur la présidente brésilienne Dilma Rousseff, 67 ans.
Oui, je voudrais souhaiter un éclairage sur Dilma Rousseff, qui est une femme battante de la vie politique brésilienne et qui s'est distinguée à travers son courage de briguer à ce poste qui est si fermé de la sphère politique et pour les droits de la femme, et ça me fait vraiment plaisir en tant qu'homme d'avoir ce genre de femme qui prend la liberté de tous les humains.
D'accord, merci beaucoup pour votre appel. Alors ceci dit, Dilma Rousseff est à la fois un bon exemple et un mauvais exemple parce que elle vit en ce moment des heures extrêmement difficiles avec un été et un printemps marqués par des manifestations anti-Dilma Rousseff qui réclament carrément sa démission.
Oui, pas parce que c'est une femme, mais parce qu'elle n'a pas réussi à juguler l'un des plus grands fléaux de ce pays qui est la corruption et auquel son parti, qui était supposé être le parti des travailleurs, travailler, lutter contre ces tentatives-là. Et quand on s'aperçoit maintenant que tout ça existait bien avant elle, c'est-à-dire également du temps de Lula, et que finalement ce
parti... Mais c'est à elle qu'on le reproche.
Mais bien sûr, et c'est assez injuste. Et en même temps, c'est clairement le parti dont elle est l'une des héroïnes, et qui en plus n'a aucune espèce de souci à se faire sur le plan de la légitimité, quand on voit comment ils se sont battus...
Héroïne parce que torturée pendant la dictature militaire, etc.
Courage politique, courage physique, courage d'aller jusqu'à la magistrature suprême, et en même temps, absence de courage politique pour dire, maintenant c'est terminé, mettons fin à ce système-là, quitte à ce qu'elle démissionne, ou quitte à ce qu'elle puisse en subir les conséquences.
Alors, message à commenter pour vous trois, messieurs, d'un internaute, Anjamena au Tchad. Pourquoi est-ce que la France et les États-Unis n'ont jamais été dirigés par des femmes? En France, il n'y a que Le Pen qui se bouge, mais elle est xénophobe. Alors, si on passait maintenant à la vie politique française, est-ce qu'il y a une star sexagénaire qui veut répondre?
En France, honnêtement, on aurait Ségolène Royal qui a quand même fait une tentative en 2007.
Elle aurait 62 ans, 4 enfants.
Elle aurait pas eu un Nicolas Sarkozy qui a fait une très bonne campagne en 2007. Elle était quand même pas loin de passer dans une certaine mesure.
Donc candidate malheureuse à la présidentielle, voilà. Qui a joué d'ailleurs sur une forme de registre un peu maternant, mère de 4 enfants.
Oui, tout à fait, avec un registre pas du tout sur lequel joue en tout cas Christine Lagarde. Mais en dehors de ça, non, maintenant je pense qu'il y a toute une génération qui arrive derrière, mais enfin qui est très très loin de la soixantaine.
Martine Aubry, qui a eu sa chance aussi au moment des primaires, et là aussi ça s'est joué à pas grand-chose. Mais c'est intéressant de voir que à droite et au centre, le journal du dimanche a encore publié son top 50 des personnalités préférées des Français. Simone Veil est toujours... 40 ans après, toujours là, parce qu'elle, je pense qu'elle incarne finalement ce qu'a été en France la cause des femmes, et en même temps la cause des femmes en politique. Mais c'est assez incroyable de s'apercevoir que 40 ans après, les différents partis politiques de la droite et du centre ne sont pas capables de mettre une femme au plus haut niveau. Edith Cresson, première femme Premier ministre.
Il y a 25 ans.
Voilà, et il n'y a pas eu de renouvellement du genre. Donc il y a un problème de peut-être pas de panne d'idées, mais peut-être de panne de courage politique.
Frédéric Lemaître, vous qui êtes à Berlin, qu'en pensez-vous sur la vie politique française ?
Oui, enfin, ce qui est clair, c'est que les femmes sont plus discriminées, je pense, en France que dans la plupart des autres pays européens, notamment à cause du cumul des mandats. Parce que les mandats sont détenus par des hommes et ils en détiennent plusieurs. C'est évident que dans un pays comme l'Allemagne, où il n'y a pas de cumul des mandats, il y a plus de postes ouverts et donc les femmes ont plus de chances.
Quel avenir, selon vous, là, pour ces trois femmes, Hillary Clinton ? Alors peut-être déjà, on va parler d'elle, puisque quelle chance déjà pour la primaire ? Elle est bien placée dans les sondages, mais...
Si... on va mettre plusieurs si. Si les différentes affaires auxquelles s'intéresse la justice américaine font pchit, comme dirait l'autre, c'est bien parti. Si son adversaire au sein du Parti démocrate, Bernie Sanders, continue de faire une campagne très à gauche, c'est bien parti pour Hillary Clinton, qui incarne finalement la grande majorité du centre
ans,
du parti.
73 ans, d'ailleurs.
Et si, en face d'elle... il n'y a pas un conservateur suffisamment courageux pour rassembler son camp autour de quelques notions clés, et notamment la réforme de l'immigration aux États-Unis, Hillary Clinton pourrait gagner la Maison-Blanche en 2016. Mais encore une fois, une campagne présidentielle américaine recèle un nombre de surprises qu'on ne soupçonne pas. Regardez 2008, regardez l'épisode précédent 2000, regardez même l'épisode de 2004 avec John Kerry, dont tout le monde pensait qu'il pourrait facilement battre un président Bush complètement défait par la guerre en Irak. Non, chaque présidentielle américaine obéit à des règles où la surprise est un élément majeur, les coups de théâtre sont nombreux.
Et bien au-delà de détails comme l'âge et le sexe.
Exactement.
Mais ça prend en compte aussi
mais
cela.
Mais regardez cette affaire d'email pour Hillary Clinton, ouais, dont elle n'arrive pas
une des casseroles
à se dépêtrer.
Voilà, ça
que finalement...
et l'attentat du contre le consulat de Benghazi, et plus les investissements immobiliers du couple,
Les investissements immobiliers, non, mais la façon dont ils ont géré la fondation Clinton, peut-être, et surtout la façon dont elle a donné deux salaires à sa principale collaboratrice, qui est vraiment... la personne la plus proche d'Hillary Clinton, un salaire au département d'État, un salaire à la fondation Clinton, ça pourrait lui coûter effectivement, si jamais les choses s'envenimaient, tout simplement la victoire à la primaire.
Concernant l'avenir d'Angela Merkel, je vous pose la question, Frédéric Lemaître, parce que Hillary Clinton, on le sait, a quelques casseroles, Christine Lagarde aussi, hein, puisque elle a été mise en examen par la justice française pour négligence dans l'affaire Bernard Tapie, Crédit Lyonnais. Angela Merkel se trimballe-t-elle quelques casseroles, petites, grandes, et quel est l'avenir ? Est-ce qu'un quatrième mandat est vraisemblable ?
Alors, côté casserole, je cherche désespérément dans ma mémoire.
C'est
et
bien ce qui me
pas.
Semblait, oui, j'en ai aussi, je n'ai pas trouvé. Mais...
va-t-elle faire un quatrième mandat ? Moi, ça me paraît assez clair. Elle ne l'a pas encore annoncé, mais elle le laisse tellement entendre que c'est loin d'être improbable. Et un des débats
qui... Et si c'était le cas, il s'agirait d'un record de longévité ou pas ?
Si elle allait jusqu'au terme, il faudrait voir avec Helmut Kohl. Non, de toute façon, ce serait pas forcément un record. Elle ferait partie évidemment des chanceux qui seraient restés le plus longtemps, mais ce serait pas forcément un record. Mais à des débats qui agitent le Parti social-démocrate, donc son opposition, on peut dire, actuellement cet été, c'est de savoir si jamais Angela Merkel se présente en 2017, est-ce que le Parti social-démocrate doit également présenter un candidat, ou est-ce qu'il a déjà perdu d'avance, pour vous donner un peu l'ambiance qui règne ici.
En tout cas, elle aurait très durablement marqué la scène politique allemande, c'est sûr.
Oui.
Christine Lagarde rempilerait bien pour un deuxième mandat au FMI, elle l'a dit, moins que la droite gagne la présidentielle en 2017 en France, imaginons.
Pour Christine Lagarde, il y a une probabilité, une certitude et un pari, si je puis dire. C'est-à-dire que la probabilité, c'est effectivement qu'elle rempile au FMI en 2016 pour 5 nouvelles années. La certitude, pardon, c'est qu'elle ne fera probablement plus jamais de politique en France, sauf si effectivement...
Pour vous, c'est clair.
Oui, c'est probable. Le seul dont elle soit assez proche, c'est François Fillon, dans une certaine mesure, donc on pourrait imaginer éventuellement un ticket.
On avait à un moment moment donné murmurer. Voilà.
Non, ça ce serait
Christine Lagarde première ministre, oui. Ça serait finalement voilà, la si deuxième fois depuis 25 ans.
Voilà, je laisse les spécialistes de la politique française estimer les chances de François Fillon. Moi, j'ai un pari en revanche pour quand même bien connaître depuis longtemps et surtout connaître ses vraies convictions, c'est que elle a pas fini sa carrière et que le FMI lui est tombé dessus un peu par hasard, mais qu'en fait le vrai destin de Christine Lagarde aurait été une carrière européenne. D'abord pour des raisons familiales, parce que ses parents étaient très proches de Jacques Delors, très engagés, plutôt chrétiens de gauche, et donc elle a toujours baigné là-dedans. Et je pense, j'en ai presque une conviction, que si elle avait été soutenue par François Hollande l'année dernière, elle aurait pu, sinon prendre la place de Juncker, être un candidat crédible à la présidence de la Commission, voire la présidence européenne. Elle avait Angela Merkel derrière elle, avec Cameron. Elle n'a pas vraiment été soutenue par l'Élysée, et puis elle n'a pas elle non plus été assez courageuse pour franchir le pas, parce que sinon elle aurait dû quitter le FMI tout de suite. Mais je crois que ça restera une frustration pour elle, et donc il ne faut jamais négliger cet attrait que l'Europe exerce sur elle.
Donc vive l'allongement de la durée de la vie, vive l'allongement de la durée de la vie politique, et vive le succès des grands-mères en politique. Je le dis, c'est une boutade, hein, le mot grand-mère. Angela Merkel ne sera jamais grand-mère, et pour cause, elle n'a pas d'enfant. Mais est-ce que les uns et les autres, vous avez une forme de fascination pour ces femmes, ou au contraire une distance absolue, Frédéric Lemaître?
Non, une fascination, c'est évident, ça, il faut pas le cacher.
Pour vous, Cyril Lachèvre?
Ah oui, moi une fascination, je le cache pas, d'autant plus que c'est quelqu'un très réservé, que je connais finalement très peu, donc je n'ai absolument aucune proximité avec elle. Et c'est même fascinant parce qu'elle n'a jamais, elle a pas les mêmes codes que les autres hommes politiques en France. Et quelque part, ce qui me désole, c'est que personne n'ait essayé d'être comme elle.
Mais parce qu'elle n'est pas réellement une femme politique française, Christine Lagarde, finalement.
Voilà, elle restera un ovni.
Et pour vous, François Clémenceau, qui suivait pas à pas le parcours d'Hillary Clinton, mais vous ne la connaissez pas d'ailleurs réellement.
On s'est croisés, on s'est parlé, mais c'est vrai que à l'avoir à travailler sur son parcours et après l'avoir suivi en campagne, il y a une forme d'admiration pour son courage face aux attaques, indéniablement, et en même temps une forme de perplexité, c'est-à-dire sur le fait que cette femme est quand même bien curieuse.
Ce mélange
de progressisme et de conservatisme est assez déroutant. Oui.
Merci à tous les trois. Merci à Pascal Thibault, notre correspondant à Berlin, qui a permis la liaison avec vous, Frédéric Lemaître. On peut vous lire sur votre blog Merkel Acte 3, vous êtes le correspondant du Monde. François Clémenceau, publié Hillary Clinton de A à Z aux éditions du Rocher. Cyril Lachèvre, Christine Lagarde, enquête sur la femme la plus puissante du monde aux éditions Michel Lafon. Merci à vous les voisins et les voisines. On se retrouve demain, drogue, alcool chez les jeunes. Merci de votre fidélité.